la première impression qu'on a quand on regarde le problème de l'eau de par le monde, et c'est une impression assez dramatique, c'est que finalement, encore aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards et 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau pour les services hygiéniques, sanitaires, et quand vous manquez de l'eau justement pour l'hygiène, cela signifie que vous avez une santé à risque, fragile. D'ailleurs, il y a plusieurs milliers d'enfants qui meurent chaque jour de par le monde. Chaque jour, 5000 enfants du fait de ne pas avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour les services hygiéniques et sanitaires. Et ça fait beaucoup d'êtres humains comme vous et comme moi pour lesquels l'eau qui devrait et qui est considérée partout et tous les temps comme une ressource vitale fondamentale manque. C'est un scandale. Au fait, la première impression vous donne le sentiment d'une société qui ne reconnaît pas et qui est incapable de créer les conditions matérielles, économiques pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour l'assainissement, alors que ce même accès vient d'être, le 28 juillet 2010, d'être reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est-à-dire que depuis 2010, pour la première fois de l'histoire de la communauté internationale, nous avons l'organe politique le plus représentatif du monde, qui est les Nations unies, qui ont reconnu que cela est un droit humain, et bien qu'il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès concrètement à l'eau potable et à l'eau pour l'assainissement. Et ça, effectivement, c'est un premier don fondamental qui doit nous obliger de réfléchir, décider pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait moi, pourquoi cette situation, etc. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce premier don, c'est que dans le monde actuel, il y a davantage de personnes qui ont accès à un téléphone mobile. Ils sont plus de 4 milliards et 800 millions de gens qui ont accès à un téléphone mobile, alors qu'il y a moins de personnes, par exemple, qui ont accès aux toilettes publiques, pas aux toilettes à la maison. Alors qu'on peut vivre sans téléphone mobile, mais jamais personne n'a pu vivre sans avoir accès à l'eau potable et à l'eau pour les services hygiéniques et sanitaires. C'est une donne qui est faite. C'est-à-dire que ça signifie que la science, la technologie, notre puissance technologique, notre puissance financière, notre puissance économique sert davantage à permettre d'avoir accès aux gens au téléphone mobile parce que cela c'est rentable. Alors ne permet pas cette science, cette technologie, cette finance puissante de donner accès aux toilettes qui sont au contraire un instrument vital pour la santé, pour l'hygiène et pour la vie. Extraordinaire. Deuxième point, deuxième image de l'eau de par le monde, c'est que l'eau bonne pour usage humain, l'eau bonne pour les usages domestiques, pour l'agriculture, l'irrigation, pour l'activité industrielle, etc., est de plus en plus rare. Et on l'a raréfiée. Elle n'est pas rare parce que les nuages ne veulent plus envoyer les pluies. Elle est rare parce que nous en avons fait un usage inconsidéré, un gaspilleur, un usage sans sagesse. On a séché des lacs, on a séché des rivières, on a contaminé, pollué toutes les eaux, les sources, les nappes phréatiques. Partout de par le monde, nous avons fait un usage catastrophique des eaux. Et même les pays riches en eau, comme la France par exemple, des situations de sécheresse deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. L'eau devient rare pour usage humain, l'eau bonne pour usage humain, donc parce que l'eau existe toujours. L'eau ne diminue pas, la quantité d'eau dans le monde ne diminue pas, elle reste stable à peu près entre différences d'eau salée, les océans, etc., et l'eau douce. Et l'eau ne change pas. La quantité de l'eau sur la planète est stable. Depuis, l'eau d'aujourd'hui est la même sur la Terre qu'il y a 300 millions, et elle sera la même d'ici un milliard. Ce qui change, c'est la disponibilité et l'accessibilité de l'eau bonne pour l'usage humain. Et ça, c'est à cause de nous. C'est nous qui abusons de l'eau. C'est nous qui faisons des villes comme Las Vegas, qui c'est une folie du point de vue de l'eau. C'est nous qui faisons, vous gérez bien du nord du Québec, à Québecville, où il y a peut-être, fait chaud un mois et demi par an, eh bien, toutes les maisons familiales uniques de Québec sont tous remplies de piscines. Et ensuite, on a un gaspillage énorme, surtout le plus grand gaspillage énorme, c'est l'eau pour l'irrigation, parce qu'on utilise une technologie qu'on appelle par aspersion, par dispersion, par pulvérisation, et 40% de l'eau utilisée pour irriguer les champs se perd par évapotranspiration avant d'atteindre les terrains. C'est pas à la maison que sont les plus grands gaspillages. L'eau pour la maison, de par le monde entier, peut arriver à 10% de tous les prélèvements. Et dans nos sociétés développées, l'eau pour la maison ne représente que 20-22% de tous les prélèvements. En revanche, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Et en particulier, par exemple, en France, c'est surtout pour l'industrie nucléaire. On utilise davantage d'eau pour l'industrie nucléaire que pour l'agriculture. Et ça, c'est des gaspillages terribles. Et de sorte qu'alors, à l'heure actuelle, tout le monde annonce que l'eau va devenir rare à cause aussi des changements climatiques qui auront des impacts négatifs sur l'accessibilité de l'eau bonne. Et alors, l'eau devenant rare, les dominants, ils disent, ben, on ne peut pas changer notre mode de vie parce que c'est la croissance, le bien-être, le bonheur d'avoir ce mode de production, de consommation actuel. Donc le bonheur ne peut pas toucher au bonheur, et donc on continuera à rendre rare l'eau. Tout en plus, on peut faire un peu de développement durable. On peut essayer de diminuer l'utilisation de l'eau pour faire les bouteilles en plastique, pour faire des voitures, etc. Mais il faut continuer à faire des voitures. Il faut continuer à produire Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, etc. Il faut continuer de plus en plus parce que la population augmente. Donc on nous donne comme inévitable quelque chose qui n'est pas, qui est l'eau sera rare. Et peut-être l'eau ne sera pas disponible pour tout le monde. Et il n'y aura que ceux qui peuvent payer. C'est pour cela qu'on dit plus quelque chose devient rare, plus doit d'être cher du point de vue du prix. Et cher l'accessibilité. Et en effet, quand il y a trop de gens qui veulent la même chose, ben, on sélectionne en augmentant les prix. Et ceux qui ont moins de pouvoir d'achat seront éliminés de l'accès à la chose qu'on désire. Mais ici, ce n'est pas une question de désir. Ici, ce n'est pas que vous pouvez choisir de ne pas boire. C'est une obligation fondamentale. Et c'est un droit, c'est pour ça que c'est un droit. Ce n'est pas simplement un besoin qu'on peut satisfaire en achetant l'objet de désir. L'eau est inévitable. Vous ne pouvez pas ne pas boire. Vous ne pouvez pas ne pas avoir l'eau pour l'hygiène. Vous ne pouvez pas ne pas avoir l'eau pour irriguer les champs, pour permettre à la terre de produire ce qu'effectivement on a besoin. Pas pour produire des végétaux pour les transformer en énergie biocarburant. Ça, c'est aussi une autre insensé. C'est une autre manière incroyable de violenter la nature. Mais l'eau, l'agriculture, pour le riz, pour le blé, pour donner l'alimentation à des milliards de gens qui encore aujourd'hui en souffrent. On n'utilise pas l'eau pour faire l'agriculture, pour l'exportation, pour uniquement les biens qui se vendent en toute saison pour les catégories riches des pays riches. On doit avoir l'eau pour l'irrigation, pour produire l'essentiel, pour l'alimentation locale, pour l'alimentation de la survie des gens, la qualité et la santé des gens. Et donc, quand les dominants disent l'eau va devenir rare, ils font violence au futur des gens.
On écoute toujours des extraits de notre entretien par téléphone avec Ricardo Petrella. Ricardo Petrella, politologue et économiste, il sera à Arras mercredi prochain.
La troisième caractéristique du monde actuel, c'est qu'à cause de cet usage mauvais, à cause de la contamination, de la pollution, etc., on a fait une opération extraordinaire. C'est un miracle à l'envers. On a rendu l'eau qui est renouvelable. L'eau, la caractéristique de l'eau, c'est qu'elle se renouvelle. C'est pas comme le pétrole. Les fleuves, à cause du cycle intégral de l'eau, l'eau des fleuves se renouvelle, l'eau des lacs se renouvelle en permanence. C'est pour cela que la vie est là. Parce que l'eau qui est source principale de la vie est en permanence en renouvellement. Eh bien, en séchant les fleuves, les lacs, l'eau, elle est toujours là. Seulement, on l'a transformée ailleurs. Et on a fait de l'eau dans certains systèmes de bassins hydrographiques comme si elle était épuisable. Et l'eau devrait être renouvelable partout. Et en revanche, on a dit, il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est un miracle négatif. Parce qu'on a réussi à modifier les cycles de la vie. Et en modifiant les cycles de la vie, c'est qu'on a fait un vol à la vie. Et d'ailleurs, il y a accès à la vie qualitativement bonne pour la santé et pour les autres, uniquement par les groupes les plus forts, les plus puissants, les plus riches. Et voilà, quatrième alors impression sur le monde, c'est que si on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, et aujourd'hui on fait encore pire, compte tenu de la raréfaction croissante de l'eau qu'on ne veut pas modifier, on veut monétiser l'eau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on monétise les services hydriques. On vous potabilise l'eau, on vous donne l'eau à la maison, et on vous dit, voilà, vous payez les services hydriques. Ce qui est déjà une question sur laquelle, dans quelques secondes, je reviens rapidement. Vous payez les services hydriques. Et on nous a toujours dit, mais non, vous ne payez pas l'eau. L'eau est un bien commun, l'eau est gratuite, l'eau vient du don du Dieu, vient du ciel, etc. Vient des viscères, du ventre de la terre. C'est l'eau est toujours gratuite. Mais vous payez les services hydriques. Eh bien maintenant, la communauté internationale, sous la pression de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des grandes compagnies multinationales de l'eau, surtout les compagnies multinationales françaises, qui sont les dominatrices, les seigneurs de l'eau en ce moment, ce sont vos Suez, vos Veolia, sont vos Sauer Bouygues, sont vos eaux de Marseille, sont vos eaux qui, de par le monde, imposent et développent ces idées. On a monétisé l'eau. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer des méthodes à partir de l'Office Water, l'Office de l'eau de Grande-Bretagne, en combinaison avec les multinationales, et ils sont en train de calculer comment donner une valeur économique au Rhône, à l'eau du Rhône, et comparer avec l'eau de la Durance, ou bien l'eau de Bretagne, ou bien l'eau du Rhin, ou bien l'eau africaine, ou bien l'eau américaine, ou l'eau du bac Laïcal, à déterminer les valeurs, par exemple, des bassins. Les bassins du Guarani, qui est le plus grand au monde, en Amérique latine, le bassin du lac Baïkal, et on veut l'eau du lac, l'eau du lac Victoria en Afrique, ou bien l'eau du Garda en Italie, ou bien le lac Owen qui est disparu aux États-Unis, les grands. Et alors, utiliser cette valeur économique des différents lacs, des différents fleuves, des différents nappes, pour jouer à acheter, parce qu'on permet maintenant de plus en plus, à acheter l'eau en vrac. Et alors, par exemple, Coca-Cola, dont la matière première essentielle, Coca-Cola ne vivrait pas sans eau. Et s'il n'y a pas d'eau, si l'eau n'est pas accessible à un prix qui lui convient, Coca-Cola meurt. Et donc Coca-Cola pousse pour avoir la possibilité d'acheter en vrac l'eau, éventuellement d'un grand fleuve de la Sibérie, si ça lui convient mieux qu'acheter s'approvisionner à l'eau du Rio Tinto ou du Rio Grande au Mexique. Et donc, il y a le marché mondial de l'eau. On veut que l'eau, puisqu'il est monétisé maintenant, on sait combien va valoir la Seine bientôt, et alors on fait le marché de l'eau des fleuves, le marché de l'eau de la mer, comme on fait le marché mondial du pétrole, et comme il y a ou du blé, et comme il y a un prix mondial du blé, un prix mondial du pétrole, il va avoir un prix mondial de l'eau. Et comme il y a des prix spéculatifs sur le blé et sur le pétrole, même si la quantité de pétrole de blé ne change pas, eh bien, il y aura les prix spéculatifs sur l'eau. Si on laisse faire nos dominants, parce que, par exemple, le président de Nestlé Brabeck, l'année passée, avait proposé, pour résoudre le problème de la rareté de l'eau, de mettre une bourse de l'eau. Et de l'eau, la logique de l'économie de marché, justement, il disait, le président de Nestlé, la bourse de l'eau décidera à quel usage on va mettre l'eau. Et ce sera les usages les plus rentables qui auront le droit d'avoir davantage d'accès à l'eau rare. Et comme ça, ce sera une bonne manière de régulation du marché de l'eau. Mais des choses insensées, tout ça. Et alors, si on les laisse, on va avoir la guerre de l'eau. Et d'ailleurs, on nous raconte tout le temps qu'il va y avoir la guerre de l'eau. Le futur qu'on promet nos classes dirigeantes à notre monde, c'est les guerres. Il va y avoir les guerres de l'eau, comme il y a eu les guerres de pétrole, comme il va y avoir des crises de plus en plus, des conflits de plus en plus graves sur les blés, sur les riz. Ben, les dominants, si on les laisse faire, ils nous annoncent un futur de guerre, de conflits. Et des conflits sur les biens essentiels, indispensables à la vie. Or, l'eau, comme les autres biens essentiels substituables à la vie, sont des biens communs, ils ne sont pas privatisables. La directive cadre européenne en matière de l'eau de l'an 2000 dit que l'eau est une marchandise. Il le dit de manière diplomatique en disant « l'eau n'est pas une marchandise comme les autres, mais ça reste une marchandise ». On marchandise tout. On marchandise l'eau. Et donc alors il faut arriver à privatiser tout, tous les services d'eau, tout, même maintenant l'appropriation de l'eau en tant que telle, puisqu'on la monétise. Et donc maintenant je dirais que devant ce scénario qui hélas, c'est pas moi qui suis pessimiste, hélas il est négatif, c'est les dominants qui disent que l'eau est rare, qu'il va devenir encore plus rare, qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des guerres. Et alors, devant ces scénarios, il ne faut pas laisser que ce soit les marchés financiers qui font la sélection de l'accès. Parce que la sélection qu'ils feront de l'accès sera la sélection. C'est-à-dire, ce sera pas le droit, répondre au droit. Mais on aura droit d'accès à l'eau uniquement ceux qui peuvent payer et au prix le plus élevé. Et uniquement dans les pays qui auront les technologies et les ressources financières pour financer les coûts des technologies nouvelles, pour permettre d'avoir malgré tout accès à l'eau pour les activités productives, pour Coca-Cola, pour les téléphones mobiles, pour les iPads. Vous savez que les iPads demandent une quantité considérable d'eau pure, très 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 pure. Et donc, sinon, comment est-ce que vous pouvez avoir les iPads si l'eau qui est utilisée pour faire les produits, les composants, n'est pas très très pure? Vous ne pourriez pas l'avoir. Et donc, et l'industrie nucléaire. Et maintenant, ils veulent même faire du gaz à partir des schistes bitumineux avec la technologie de la fracturation qui demande énormément d'eau. Et ensuite, une fois qu'on fait l'opération, l'eau qui en ressort est complètement polluée, contaminée. Très dangereuse pour des usages humains. Et voilà alors que finalement, le tableau que je viens de brosser rapidement et qui demande des fortes préoccupations, demande aussi une grande chose, que les citoyens se réveillent, qu'ils n'acceptent pas d'être des consommateurs, qu'ils n'acceptent pas d'être contents qu'ils consomment de l'eau pour leur piscine, pour leur salle de bain, pour leurs produits agricoles, etc., au moindre prix, et qu'acceptent même une augmentation du prix. Et parce que, de toute façon, eux, ils pourront payer. Ces consommateurs du monde développé, dit développé, du monde dit riche, ils devraient devenir des citoyens. Et citoyen signifie se mettre dans une position où l'eau est bien commun, est bien pour tout le monde. L'eau ne peut pas être uniquement source de vie pour les riches. C'est un scandale. C'est inacceptable que des catholiques acceptent ça. C'est inacceptable que des musulmans acceptent ça. C'est inacceptable que des hindous acceptent ça. Que l'eau soit source de vie uniquement pour les plus forts, pour les plus riches. Et donc, devenir citoyen signifie, à l'heure actuelle, même si souvent ça n'amène à rien, descendre dans la rue, protester et aller au-delà de la protestation. Essayer de trouver des solutions et faire des solutions. Et les citoyens sont la solution. La solution au niveau local, avec des systèmes de gouvernement de l'eau participés, orientés vers le droit pour tout le monde, orientés par un souci réel de préservation de la ressource dans le cadre d'un environnement qui soit véritablement respecté par les êtres humains, et pas seulement déclarer les dimanches ou dans les discours sur le développement durable. Il signifie que des citoyens deviennent conscients et responsables. Pas simplement proposer ou espérer que les dirigeants soient sages, mais que les citoyens doivent être responsables. D'où, par exemple, les idées de développer des coopératives de gestion sur l'eau, de gestion de l'eau de pluie dans les villes. Nous, on ne valorise plus l'eau de pluie. Elle est laissée couler dans les égouts, alors qu'on devrait utiliser l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, on peut, si on gère bien l'environnement, on peut l'utiliser sans manipulation considérable et coûteuse pour certains usages humains. Si on peut les transformer en pluie, l'eau de pluie pour la potabilisation, là, c'est un peu plus onéreux du point de vue économique, mais on peut le faire.
Le passionnant et prolixe Ricardo Petrella, contacté hier après-midi. Je vous ai passé seulement une partie de l'entretien, comme vous aurez compris, il a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Il sera à Arras ce mercredi pour pas moins de deux rencontres à l'invitation de Haut Secours 62. D'abord à l'Université d'Artois de 16h30 à 18h, amphithéâtre Jacques VI. Et puis juste à côté à l'UFM à partir de 19h, le même jour, mercredi 24 octobre, pour une conférence débat organisée par Attac Artois Ternois. C'est en entrée libre. Je vous signale aussi que le samedi 27 octobre, donc ça sera la suite des journées de l'eau à Arras, toujours organisées par Haut Secours 62. Trois débats prévus à l'Atria de 14h à 18h, avec notamment la participation d'un autre intervenant très intéressant qui s'appelle Raymond Avrillier, ancien maire adjoint de Grenoble. C'est lui qui a provoqué l'affaire Carignan 94. Et puis récemment, il a notamment mis au grand jour l'affaire des sondages de l'Élysée. On en reparlera forcément sur Radio PFM la semaine prochaine.